Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis. Vous êtes l'auteur du livre Seine-Saint-Denis, la République au défi aux éditions de l'Aube. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Stéphane Troussel, j'aimerais d'abord vous demander ce que votre département va faire pour les personnes victimes de l'inflation des prix de l'énergie et des denrées alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des conséquences de cette crise sur votre budget ?
Alors on est en ce moment même en train d'évaluer les conséquences budgétaires pour le département, vraisemblablement aux alentours d'un peu plus de 30 millions d'euros sur le budget 2023. Donc toute la stratégie qui va être la mienne, la nôtre, c'est eh bien de tenter d'y faire face. De ce point de vue, notre situation budgétaire ces dernières années s'est un peu améliorée, tant par nos efforts de gestion, l'augmentation d'un certain nombre de nos recettes, mais aussi, disons-le, la recentralisation du financement du RSA. Et donc, mon objectif, c'est justement que cette situation budgétaire nous permette de passer ce cap et cette dépense supplémentaire, ces dépenses supplémentaires liées à l'inflation, sans remettre en cause aucune de nos actions, politiques publiques, prestations ou dispositifs. Et même cette année, j'ai par exemple, en cette rentrée 2022, mis en place une nouvelle prestation en direction des familles pour aider les familles à travers une aide de 100 euros pour tous les élèves de 5e dans les collèges publics de Seine-Saint-Denis à s'inscrire à une activité sportive. Et enfin, deuxième grand domaine d'action qui est la responsabilité du département, c'est notamment les collèges. Et donc là, il y a un enjeu parce qu'il faut bien les chauffer, ces collèges. Jusqu'à présent, c'est chacun des collèges avec la dotation que le département versait qui payait ses factures de fluide, d'énergie, et donc le département va prendre ce risque énergétique et va reprendre toutes les factures des collèges. Et enfin, dernière démarche la plus significative que nous allons mettre en œuvre, c'est que nous allons renoncer à l'augmentation annuelle liée à l'inflation sur les tarifs de cantine dans les collèges, les 130 collèges publics de Seine-Saint-Denis, pour tenter de préserver, dans les responsabilités qui sont les nôtres, les familles du département.
Le maire de Neuilly-sur-Marne dénonce le racket opéré, selon lui, par les fournisseurs d'énergie. Vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a un racket de ces opérateurs d'énergie ?
Il a raison de tirer la sonnette d'alarme et je crois que les mesures d'ores et déjà annoncées par le gouvernement ne vont pas suffire. Et donc, il faut aller plus loin dans le bouclier tarifaire pour les collectivités locales, parce qu'elles sont en première ligne pour soutenir les familles, notamment les plus modestes.
Alors Stéphane Troussel, vous publiez un entretien avec Madani Churfa, Seine-Saint-Denis, la République au défi, aux éditions de l'Aube. Dans ce livre, vous écrivez que dans votre département, la République est au défi de faire réussir ses valeurs. La Seine-Saint-Denis est souvent caricaturée, stigmatisée, on l'a entendu lors de la dernière présidentielle. Ce livre, vous l'avez écrit pour déconstruire une fois pour toutes tous les préjugés qui entoure le 9-3, comme on dit ?
Seine-Saint-Denis.
Vous n'allez pas dire le 9-3 ?
Non, parce que est-ce que quand on parle des Yvelines, quand on parle du Nord, est-ce qu'on parle du 5-9 ou du 7-8 ? Non. Donc, nous nous appelons la Seine-Saint-Denis, nous sommes fiers de cette identité. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Bon, parce que c'est pour moi un moment un peu particulier. Ça fait 10 ans que je suis président du département, fait plus longtemps encore que je suis engagé. Ça fait depuis ma naissance que je vis en Seine-Saint-Denis. J'y suis né. Et puis, on est à un moment charnière pour le département, pour ma famille politique. Et puis, vous l'avez dit, l'élection présidentielle a été un moment où, une fois encore, notamment au début de cette campagne présidentielle et de la part de l'extrême droite en particulier, la Seine-Saint-Denis a été utilisée, instrumentalisée.
Avec une violence peut-être jamais égalée.
Exactement, avec une violence inégalée, et c'était d'ailleurs souvent un des motifs dans l'apathie généralisée de cette campagne présidentielle, c'était souvent un des motifs de rage, de colère et de mobilisation des habitants de la Seine-Saint-Denis face à ce déferlement de haine, de préjugés, de stigmatisation qui étaient déversés par les candidats d'extrême droite, en particulier contre la Seine-Saint-Denis, qui instrumentalisent au fond ce que nous sommes. Et c'est pour cela, oui, je crois par ailleurs que ce combat-là sera inachevé et il faudra tout le temps y revenir et le poursuivre. Et donc c'est pour ça, mais c'est aussi finalement pour dire à l'ensemble du pays qui, tout le pays a souvent une idée, son idée de la Seine-Saint-Denis. Mais je veux aussi que la Seine-Saint-Denis, elle dise quelque chose au pays. Et je crois que ce qu'elle veut dire, ce que nous voulons dire, ce que je veux dire, c'est que finalement, ce que la Seine-Saint-Denis affronte, ses caractéristiques, sa jeunesse, sa diversité, son côté populaire, finalement, c'est à la fois une partie de l'identité que le pays ne veut pas voir toujours de lui-même, et puis les défis que doit affronter la Seine-Saint-Denis, c'est un peu un condensé de ce que doit affronter dans les années qui viennent la société française tout entière. Les inégalités qui explosent, la transition écologique, la transition démographique également. La Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune de France métropolitaine, mais plus que d'autres, nous allons devoir affronter l'augmentation très forte du nombre de personnes âgées dans notre département. Et puis les questions d'immigration, d'identité, de laïcité qui taraudent la société française et qui sont un enjeu chez nous. Mais justement, je crois qu'on peut faire une démonstration de ce que si la République traduit concrètement tous les jours et pas seulement à travers son triptyque sur le fronton des écoles, eh bien, je crois qu'on peut réussir.
Stéphane Troussel, le nouveau ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein, est quelqu'un que vous connaissez bien. Il est maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Vous avez milité dans le même parti avant qu'il ne rejoigne Emmanuel Macron. Et vous dites dans le livre que la prochaine crise sociale viendra du logement et de l'habitat. Est-ce qu'il faudrait un plan Marshall pour le logement? C'est un sujet qu'on n'entend pas évoquer aujourd'hui par la classe politique en général.
Oui, vous avez raison. C'est pour moi un motif de questionnement, une interrogation sur le fait que, en dépit de la grave crise du logement qui touche en particulier les catégories populaires, la jeunesse, en Seine-Saint-Denis, mais dans bien d'autres territoires de notre pays, dans de très nombreux territoires, et c'est même le sujet unique, sinon principal de motif dans nos permanences d'élus locales, et nous ne parvenons pas à en faire un objet finalement de mobilisation politique. Et pourtant, je crois qu'aujourd'hui la situation est gravissime. Il y aura vraisemblablement à la fin de l'année 2022 moins de 100 000. 95 000, 97 000 agréments pour les logements sociaux dans notre pays. Il en faudrait plus de 150 000 par an. Donc la situation est particulièrement dégradée. C'est le résultat tout de même, il faut le dire, parce que c'est souvent avec un temps de retard en matière de logement des choix qui ont été faits sous le quinquennat précédent. Et donc, oui, j'espère beaucoup que Olivier Klein, dont je connais l'engagement, dont je sais la sensibilité sur ces questions de logement, à la fois de logement social, mais aussi d'habitat privé, en particulier de l'habitat insalubre. Et donc, je connais sa détermination, quels que soient les choix différents que nous avons faits ces dernières années. Ma question, c'est est-ce que finalement, son engagement, sa détermination personnelle vont être suffisants pour tenir tête et obtenir des arbitrages favorables face, disons-le, à Bercy? Est-ce que le ministre du Logement, avec Olivier Klein, il va être à l'hôtel de Roquelaure, le siège du ministère du Logement, ou est-ce qu'il va être à Bercy? Parce que ces dernières années, c'est une vision totalement libérale qui l'a emporté en matière de logement. Jamais aucun gouvernement n'avait fait une telle ponction sur le secteur du logement social en particulier. Et donc face à la grave crise du logement aujourd'hui, la difficulté pour les jeunes de se loger, les catégories populaires dans l'habitat privé de fait, l'impossibilité pour les organismes de logement social de construire face aux ponctions qui ont été faites sur leur secteur, eh bien oui, je crains l'aggravation des tensions sur ce sujet-là.
C'est une question de volontarisme politique, c'est pas juste une question de normes, par exemple.
Eh bien, c'est exactement pour ça que nous n'arrivons pas à mobiliser sur ce sujet, parce que globalement, on a trop le sentiment, le sentiment est trop répandu que le logement, c'est un sujet technique. Non, c'est la situation en matière de logement, c'est d'abord le résultat de choix politiques qui ont été faits ces dernières années. Donc oui, c'est un enjeu majeur si on veut y compris redonner de l'espérance aux catégories populaires et à la jeunesse de ce pays.
Stéphane Troussel, Emmanuel Macron souhaite une nouvelle loi sur l'immigration et l'asile. Il propose notamment que des immigrés soient envoyés dans les zones rurales. On a déjà entendu l'extrême droite dire que les Français ne voulaient pas que leur village soit des mini Seine-Saint-Denis. Vous êtes d'accord avec le fait qu'il faudrait limiter le nombre d'immigrés dans votre département et qu'il y ait une meilleure répartition territoriale pour une meilleure intégration?
Bon, d'abord, sur ce sujet de l'immigration, il faut que la France, elle assume ce qu'elle est. La France, depuis toujours, contrairement à d'autres pays européens, elle s'est construite par des vagues d'immigration successives. C'est ce qui fait notre identité. Non, nous n'avons pas tous nos ancêtres gaulois. C'est une réalité de notre pays. C'est sa singularité, c'est sa force, c'est son énergie. Donc d'abord, revendiquons-le. Deuxième élément, la France est en train de vieillir. Le continent européen est en train de vieillir. D'autres pays qui n'étaient pas des terres d'immigration, je pense à l'Espagne, au Portugal, à l'Italie, qui étaient des terres d'émigration, eh bien, sont en train de devenir des terres d'immigration, y compris face à leur affaiblissement démographique. Donc, et le troisième sujet, c'est ce qui se passe de par le monde, compte tenu des désordres du monde. Les guerres, les violences, les désordres climatiques. Imaginez que cet été, il y a eu 50 millions de déplacés à cause des inondations au Pakistan. 10 ans avant, il y avait 38 millions de déplacés pour des inondations sur toute la planète. Donc, il faut dire la vérité à nos concitoyens. Cette question de l'immigration, des mobilités, des mouvements de population, compte tenu de notre affaiblissement démographique en Europe, compte tenu de l'explosion démographique en Afrique, ça va être une question, un défi qui est devant nous. Et donc, d'abord, il faut que les responsables politiques disent la vérité aux Français, cessent le discours mensonger, dangereux, irresponsable, qui consiste à dire qu'on pourrait, je ne sais pas quoi, entourer le pays de barbelés et de gérer les flux dans les préfectures pour empêcher l'immigration. Ce n'est pas vrai. Quand des hommes et des femmes, on voit leur maison inondée, leur région dévastée, et qu'ils ne peuvent plus y vivre, ils vont partir sur les routes dans les mers pour essayer de fuir la misère et les désordres climatiques. Donc assumons cette question. Et ensuite, une fois qu'on a dit la vérité, il faut accueillir et il faut bien accueillir en organisant l'accueil. Oui, il faut dire la vérité. Et pour cela, il faut faire, je crois, des choix d'organisation de cet accueil. Et donc, non, on ne peut pas toujours ajouter des difficultés, mener une bonne politique d'intégration, d'insertion réussie dans des territoires qui affrontent déjà des difficultés. Et donc, par exemple, quand la France a joué son rôle dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, eh bien, elle a constaté, et moi je salue cette démarche qui a été effectuée, la France a constaté que en Île-de-France, par exemple, et en Seine-Saint-Denis singulièrement, les dispositifs d'hébergement et de logement étaient suffisamment saturés pour que l'Île-de-France et la Seine-Saint-Denis soient essentiellement un territoire d'accueil et de premier accueil et d'orientation. Puis ensuite, eh bien, de redirection des familles, alors il faut gérer parce que c'est pas simple hein, de faire ça, vers des territoires qui avaient des capacités d'hébergement, de logement et par ailleurs aussi de travail. Et je crois qu'il c'est ça la bonne manière de faire, d'organiser l'accueil et d'organiser y compris sur l'ensemble du territoire national.
Dans des départements comme l'Aveyron, la Lozère, on peut imaginer que par exemple des classes soient maintenues grâce à l'arrivée de familles.
Je ne vais pas le citer pour ne pas le mettre éventuellement en difficulté, mais je connais un sous-préfet d'un territoire de province qui me disait mais moi je suis en difficulté, j'ai une entreprise qui va se créer, qui va s'installer sur mon arrondissement avec des emplois à la clé, mais j'ai personne pour venir y travailler. Donc moi je serais ça serait parfait si j'avais des jeunes migrants à qui on peut proposer un logement, qu'on peut former, à qui on peut faire une politique avec lesquels on peut faire de l'apprentissage du français. Par exemple, je trouve que notre pays n'est pas à la hauteur de sa mission et de sa responsabilité, par exemple sur l'apprentissage de la langue française. La situation est vraiment très dégradée en matière d'apprentissage de la langue française. Il faudrait avoir, notamment dans les territoires qui sont des territoires d'accueil, une politique puissante dans ce domaine-là.
Comment reconnaître la diversité des histoires des habitants de Seine-Saint-Denis sans tomber dans le communautarisme ? C'est un sujet que vous abordez dans le livre.
Moi, je suis un universaliste, mais être universaliste, ce n'est pas dénier, renoncer, mettre de côté les parcours, les histoires, les origines, les singularités de chacun. Le rôle de des responsables politiques et le rôle de la République dans la manière dont nous nous sommes construits, c'est de ne pas les nier, mais de chercher à les rassembler, à les unifier, à les faire converger dans un projet, dans un destin commun autour de valeurs communes qui sont celles de la République. Et non, je ne crois pas que reconnaître des identités singulières, moi j'ai l'impression en cela d'être fidèle à la pensée d'Aimé Césaire. On peut être universel, attaché à l'universel, et en reconnaissant des singularités, des histoires individuelles, des parcours et des histoires singulières. Et c'est vrai que c'est une difficulté dans notre République, parce que pour s'imposer, pour préconiser l'égalité, oui, la République a été, notamment à son origine, tentée de nier les singularités, parfois celles des provinces, celles de chacune de nos provinces. Et donc, elle a tenté, y compris elle a tenté de nier ça. Mais je crois que justement, notre combat, c'est de pouvoir à la fois mener le combat pour l'égalité, mais de reconnaître des histoires sans les nier, et même en valorisant cette diversité. Et il faut faire ça d'un côté, et en même temps, pour que chacun ait en fonction de son origine, son histoire, son identité singulière, adhère à ce projet collectif, il faut aussi mener une lutte acharnée contre les discriminations et le racisme et les inégalités dans notre pays. Parce que sinon, le sentiment que notre triptyque au fronton des écoles et nos valeurs républicaines, eh bien, le sentiment, c'est que ça peut sonner creux pour des milliers, pour pas dire pour des millions de nos concitoyens.
Merci Stéphane Troussel. Je rappelle que vous êtes président socialiste du département de Seine-Saint-Denis et je renvoie nos auditeurs à votre livre « Seine-Saint-Denis, la République au défi » aux éditions de l'Aube. Bonsoir.
Merci, bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.